Henri de Régnier, elle et eux. Je n'ai pas l'habitude de suivre les femmes, me dit mon ami Robert Lestrier, tandis qu'attablés à la terrasse du café Rouquette, nous regardions, tout en fumant nos cigares, le défilé des passants dont quelques-uns se livraient visiblement à ce genre de passe-temps. Cependant, c'est pour n'être pas demeuré insensible à l'attrait d'une silhouette féminine que je fus témoin de la scène assez émouvante, dont le souvenir me revient, je ne sais pourquoi, à l'esprit. Tout en parlant, Robert Lestrier s'essuyait le front avec son mouchoir de soie. Il faisait en effet ce jour-là une chaleur accablante, une de ces chaleurs qui s'abattent parfois sur Paris et qui doivent rendre bien pénibles les exploits de ses suiveurs, dont le gérardier se vantait de ne pas partager la passion cacheresse et aventureuse. « Ou plutôt si, reprit-il, je sais très bien pourquoi je repense à cet épisode. » Ce fut par une journée aussi chaude et aussi lourde que celle d'aujourd'hui que je pénétrais dans la gare de Lyon où je devais prendre le train de 10h33 pour Dijon. Mon bagage enregistré, je me dirigeais sans hâte vers le quai à la recherche d'un compartiment vide quand je fus dépassé par une femme en deuil qu'escorté d'un porteur, je vis monter dans un des wagons. Si je ne suis pas un suiveur de femmes, je ne demeure pas cependant indifférent à la grâce ou à la noblesse d'allure d'une passante. Paris offre d'harmonieuses et charmantes rencontres qui sont un des plaisirs innocents de la flânerie parisienne et il n'y a pas de raison pour se priver de ces aubaines. On en emporte des images agréables, et il y a certains visages ainsi entrevus qui ne sont plus sortis de ma mémoire. Or, cette femme en deuil m'avait frappé par je ne sais quoi de particulièrement distingué. Je n'avais pas vu sa figure, mais sa démarche était d'une élégance si hautaine et si rare. Cependant, j'avais longé toutes les voitures du train, tout était plus ou moins occupé. L'heure du départ approchait et les voyageurs retardataires se bousculaient pour prendre place, si bien que je fis comme eux et que je me trouvais avec une surprise peut-être quelque peu hypocrite, assis en face de la femme en deuil et sur la même banquette qu'un jeune couple qui composait avec elle tout le personnel du compartiment où il faisait d'ailleurs une chaleur étouffante. Le temps, beau jusqu'à présent, tournait à l'orage, et de gros nuages blanchâtres se massaient avec lourdeur au-dessus du vitrage surchauffé de la gare. Ce ne fut que lorsque le train fut en marche que j'examinai mes compagnons de route, et mes regards se portèrent tout d'abord sur la femme en deuil. Elle n'était plus très jeune, mais elle avait dû être d'une grande beauté, dont les traces admirables se voyaient encore sur son visage pathétiquement ravagé. Il était éclairé par de magnifiques yeux sombres qui avaient beaucoup pleuré et ennoblis par une expression de grave et ardente douleur. Cette femme avait dû perdre quelque être passionnément et uniquement aimé. Elle survivait à une vie brisée dont le déchirement profond était inguérissable. Et cette douleur, elle la portait avec une dignité incomparable. Cette impression était si forte que le couple d'amoureux blotti sur la banquette opposée en était comme intimidé. Ah, ceux-là, avec quelle confiance, avec quelle ardeur, ils allaient vers la vie. Lui pouvait avoir 25 ans. C'était un beau garçon, robuste, élégant, au visage frais et rasé, au corps vigoureux, aux gestes précis et aisés. Il avait cette fierté dans le bonheur que donne l'amour partagé. Il devait être marié depuis peu. Cela se voyait à quelque chose d'assuré, de protecteur et d'indulgent dans la façon dont il considérait sa compagne. Quant à elle, oh, elle était l'image même de la jeunesse, 18 ans au plus. Une figure charmante et rieuse, une bouche naïve, des joues veloutées, un petit nez palpitant, des yeux d'un bleu divin, et des cheveux admirables, des cheveux légers, fins et abondants, et tout ensoleillés d'un blond lumineux. La première heure du voyage se passa sans incident. J'avais ouvert un journal. La dame en deuil avait sorti un livre de son sac et les deux amoureux regardaient le paysage en échangeant de rares paroles. À toute vapeur, le train filait à travers la campagne brûlante. Par les glaces baissées des portières entrait un air calciné. Il faisait onduler le voile noir de la femme en deuil et voltiger les cheveux légers de la petite dame blonde, car elle était petite, plutôt potelée que grasse. Parfois, je l'examinais à la dérobée, et je m'apercevais que son petit pied chaussé du Pablo en banque témoignait de quelque impatience. Cet enfant s'ennuyait visiblement d'être enfermé dans ce compartiment, avec des compagnons de route dont la présence gênait sans doute ses expansions d'amoureuse. Évidemment, nous étions des gêneurs et nous l'agacions. Aussi commençait-elle à s'agiter, s'éventant, débouchant un flacon, fouillant dans son sac, se regardant au miroir, bougeant sur sa banquette, parlant à l'oreille de son mari. Mais à mesure qu'elle s'agitait, elle ressentait plus désagréablement la température torride où nous étouffions. Il était près de midi, et la chaleur était vraiment insupportable, accablante, si accablante que, malgré le remue-ménage de ma petite voisine et malgré l'intérêt qu'excitait toujours en moi le visage pathétique de la dame en deuil, je me laissais aller peu à peu à une invincible somnolence, si bien que je fermais les yeux et que je finis par m'endormir. Le grondement d'un train que nous croisions me réveilla et je ramassai mon journal tombé sur le tapis. En regardant autour de moi, avec ce léger ahurissement que cause un brusque réveil. De même que l'extrême chaleur de ce midi brûlant m'avait assoupi, elle avait eu raison également de l'agitation de ma blonde voisine. La tête sur l'épaule de son mari, sa coiffure à demi défaite, les yeux clos et sa bouche délicieusement entr'ouverte, elle dormait dans une attitude charmante de confiance et d'abandon. Ce sommeil était si émouvant de jeunesse et de grâce, si amoureux et si enfantin, si intime et si tendre, qu'on avait l'impression d'une indélicatesse et d'une indiscrétion à en être témoin. Ce sentiment fut si fort que je tournai les yeux vers la dame en deuil comme pour le lui faire partager. Elle ne lisait plus, et elle avait posé son livre sur ses genoux. Immobile et grave, en ses voiles noires, elle regardait la blonde endormie avec une expression de tristesse infinie sur son beau visage ravagé. Elle était si pâle qu'on eût dit qu'elle allait défaillir. Soudain, elle porta la main à son cœur comme si une souffrance trop vive la déchirait, et je vis sur ses joues couler deux longues larmes, de lentes larmes venues du fond de son passé et du fond de sa douleur, et je compris qu'elle pleurait le souvenir de quelque bonheur à jamais perdu, qu'elle pleurait de regrets, de détresse et de solitude devant cet enfant amoureusement et tendrement endormi, qui lui rappelait la femme aimée qu'elle avait été, elle aussi, qu'elle pleurait parce que jamais plus sa tête ne reposerait sur une épaule, parce qu'il y a dans la vie des heures interdites désormais dont elle emporte avec elle l'enchantement périssable. Et ma foi, je ne sais, ajouta Robert Lestrier en se levant et en me serrant la main, si je n'eus pas un mouvement de mauvaise humeur contre l'heureux gaillard de 20 ans qui sentait sur sa joue rasée de frais la caresse blonde de ce jeune sommeil de femme.